Nous sommes en 1985. Trois chercheurs britanniques découvrent au-dessus du pôle sud une énorme destruction de la couche d'ozone. Rapidement, les responsables sont pointés du doigt. Il s'agit de gaz produits par l'industrie chimique, parmi lesquels les tristement célèbres CFC, utilisés comme fluide de refroidissement dans les frigos. Deux ans plus tard, en 1987, est adopté le protocole de Montréal, qui a pour objectif d'éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d'ozone. 191 pays l'ont signé depuis, avec des résultats significatifs, puisque le trou a diminué. Aujourd'hui, 16 septembre, c'est la journée internationale de la préservation de la couche d'ozone. Et on en parle dans un instant avec mon invitée Sophie Godin-Beckmann, qui est directrice de recherche au CNRS. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passera au vert dans quelques minutes.
Je suis allée dans un festival vegan et pop ce week-end, tout un programme.
On va tout savoir. Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui un auditeur de La Réunion, Stéphane, qui travaille à la préservation des tortues. Le feuilleton de la semaine, ce sera avec vous Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
Pour une immersion, Julie, dans le quotidien d'une famille zéro déchet.
Avec les galères et les engueulades, notamment au sein du couple, parce qu'il y en a quand on se lance dans le zéro déchet.
Premier épisode tout à l'heure, et puis enfin notre invité découverte est le journaliste Fabrice Nicolino, qui publie une enquête sur les pesticides. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisé bien sûr par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
La Terre est menacée. La couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets est en effet percée au pôle sud. Principaux accusés, les bombes aérosols.
Voilà la voix de Claude Sérillon, c'était le journal de 20h d'Antenne 2 à l'époque, en 1986. Bonjour Sophie Godin-Beckmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directrice de recherche au CNRS et présidente de la Commission internationale sur l'ozone. Vous êtes notre invitée aujourd'hui, 16 septembre, à l'occasion de cette journée internationale de protection de la couche d'ozone. Alors c'est vrai que l'histoire de ce trou est très intéressante, car c'est en fait une grande saga, à la fois scientifique, diplomatique et industrielle. Et pour une fois, c'est un succès aussi, on va le voir avec vous. Et le thème de cette journée, c'est justement de mettre l'accent sur plus de trois décennies de coopération internationale. Ça n'est pas si fréquent justement d'arriver à un résultat aussi positif finalement dans le cadre de grandes négociations internationales.
Oui, effectivement, surtout à l'occasion du 30e anniversaire du protocole de Montréal. Donc en 2017, on avait souligné le succès de ce protocole qui est quand même un protocole environnemental qui a été ratifié par tous les pays et qui montre des succès tant dans la réduction de l'abondance des substances qui détruisent la couche d'ozone et dans la stabilisation de la destruction de l'ozone. Oui. Donc c'est un succès important qu'il faut souligner.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait le succès d'ailleurs finalement ?
Alors, il faut savoir que à l'époque, en fait, les substances qui étaient accusées provenaient d'une industrie l'industrie chimique,
donc clairement identifiée,
voilà, hein. Qui était clairement identifiée. Ensuite, il y avait déjà eu des alertes sur la couche d'ozone, donc cette industrie avait commencé déjà à réfléchir à des substituts, hein, puisqu'il y avait déjà une première interdiction de ces substances en 1979 sous la forme des aérosols. Et donc, à l'époque, ils ont essayé de trouver des substituts, ils les ont préparés. Et lorsque est intervenue la découverte du trou d'ozone en 1985, ça s'est allé très très vite en fait, il y a eu des hypothèses qui ont été formulées très rapidement par la communauté scientifique. La NASA a organisé une campagne dès 1986-87 pour essayer d'identifier les causes, parce qu'initialement on n'était pas sûr que ce soit les CFC qui soient responsables. Et cette campagne a permis de mettre en évidence clairement la responsabilité de ces gaz. Et donc, du point de vue diplomatique, ça a pu aller très très vite à cette époque, avec la signature du protocole dès 1987. Ouais. Et il y avait aussi, avant 1985, déjà eu la signature de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Donc là, il y avait tout un contexte qui voilà. A fait que finalement, on a pu agir assez puissamment au moment du protocole de Montréal.
Oui, tout à fait.
Ouais. Alors vous me disiez quand même, en préparant cette émission, que c'était un contexte particulier. L'époque n'était quand même pas du tout la même, et les acteurs non plus d'ailleurs.
Oui, l'époque était différente. D'abord, c'est vrai que c'est un protocole pour lequel les États-Unis ont joué un rôle majeur. Donc on voit la différence avec la situation actuellement, hein, où là, ils sont plutôt un frein. Les acteurs aussi industriels étaient essentiellement concentrés dans les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Donc il y avait beaucoup moins d'acteurs. Maintenant, il y a beaucoup plus de producteurs en Inde, en Chine, etc. Donc le monde est beaucoup plus multipolaire. Et puis, on n'avait pas la même conception des défis environnementaux. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on a commencé à introduire la notion de permis d'émission. Et cette notion n'avait pas été encore introduite dans les années 70-80. Donc là, on s'est orienté...
On était plus radical, finalement.
Voilà, on s'est orienté directement vers des trajectoires de réduction des émissions de ces gaz, en essayant de mettre en place un cadre de travail qui soit positif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, on a pris en compte la responsabilité différenciée des États. C'est-à-dire que c'était clairement établi que c'était les pays développés qui étaient responsables de ces émissions. Donc, oui. C'est les États qui étaient appelés les pays de non-article 5. Et ceux qui pouvaient bénéficier des bienfaits du protocole, c'était les pays de l'article 5, oui. Donc les pays du Sud, pouvaient bénéficier de subsides déjà pour pouvoir faire des transferts, avoir la technologie et pouvoir mettre en place leur propre programme. Et voilà, donc c'était la situation.
Donc ça veut dire qu'il y a eu un délai de transition plus long pour ces pays du Sud par rapport aux pays du Nord, qui étaient largement émetteurs et qui donc devaient faire des efforts plus importants aussi.
Donc les principaux CFC ont été complètement interdits en 1996 dans les pays développés et en 2010 dans les pays en voie de développement. Donc il y a eu un délai et à chaque fois qu'on a introduit donc la première gamme de substituts, pareil, il y a aussi un délai entre les obligations des pays en voie de développement et les pays développés.
Sophie Godin-Beckmann, donc on voit effectivement que tout le monde s'est emparé du sujet assez vite. Il y a eu vraiment un balai diplomatique très 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 efficace. Il faut souligner que c'était un choc aussi pour la planète entière, finalement, la découverte de la destruction de cette couche d'ozone. Pour quelle raison exactement ?
Alors, c'est la première fois qu'on voyait qu'il y avait une atteinte d'ampleur globale sur un paramètre qui finalement permet de préserver la vie sur Terre. Il faut savoir que l'ozone, la couche d'ozone, nous protège de rayonnements ultraviolets dangereux. Et si on détruit la couche d'ozone, eh bien, on peut causer des atteintes importantes à la vie sur Terre avec, pour les humains, des problèmes de cancer de la peau, etc. Donc, c'est l'apparition de la couche d'ozone dans l'atmosphère, il y a 600 millions d'années à peu près, qui a permis à la vie d'émerger hors des océans vers les continents. Et donc, on s'est tout de suite rendu compte du danger que pouvait constituer cette atteinte à la couche d'ozone. Et c'est pour ça que la réaction a été extrêmement rapide.
Ouais. Donc, notre bouclier, finalement, était largement menacé. Et donc, il nous menaçait directement aussi.
Oui, et en plus, c'était étonnant parce que, en fait, on avait déjà identifié les gaz CFC comme étant dangereux pour la couche d'ozone. Mais à l'époque, en 1985, la théorie montrait qu'ils attaquaient la couche d'ozone plutôt vers 40 km d'altitude. Donc, on pensait que c'était pas très dangereux. Et là, le choc a été de voir que, en fait, leur responsabilité sur la couche d'ozone était vers 20 km d'altitude, là où elle est la plus abondante. Mmh. Et là, il y avait vraiment un problème scientifique à trouver. Enfin, on s'est posé la question, mais comment ça se fait que ces gaz peuvent atteindre la couche d'ozone là où elle est la plus abondante? Il a donc fallu faire appel à d'autres processus très spécifiques qui se produisent donc dans la stratosphère polaire en hiver, notamment au-dessus de l'Antarctique.
Aujourd'hui, quel est l'état de cette couche d'ozone? Alors, parce qu'il y a des allers-retours finalement dans sa diminution, avec un phénomène qui tendrait plutôt à ralentir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle
on a bien réussi à diminuer l'abondance des substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère. Mais par contre, en 2018, il y a eu un article qui a été publié et qui a montré qu'en fait, on assistait à une diminution du ralentissement, un ralentissement de la diminution de ces CFC-11 dans l'atmosphère. Et donc, on s'est demandé pourquoi, parce que on pensait qu'il pouvait y avoir, même s'ils avaient été interdits complètement, il pouvait y avoir quand même des émissions par les stocks. En fait, ils sont toujours dans des stocks, par exemple, des frigos qui sont dans des décharges, etc. Donc, on avait une estimation des émissions par ces stocks. Mais là, ce ralentissement, menait à des émissions beaucoup plus importantes que la destruction de ces stocks. Et donc, on a essayé de trouver pourquoi. Et finalement, on a pu incriminer en fait une source d'émissions dans l'Asie du Sud-Est.
Ouais. Et en Chine en particulier.
Ouais. Et donc, après, il y a eu d'autres études plus précises qui ont mis en avant vraiment des sources d'émissions dans l'Est de la Chine.
Donc, gros succès, effectivement, pour ce protocole de Montréal, on peut le dire. Mais attention, fragilité quand même toujours autour de cette couche d'ozone. On va en parler ensemble dans un instant. Sophie Godin-Beckmann, vous êtes notre invitée. Et puis les questions des auditeurs, bien sûr, qui nous rejoignent en direct dans la Terre au Carré. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, Camille, vous passez au vert évidemment et vous avez même tenté de passer au véganisme ce week-end, un régime alimentaire évidemment associé à l'écologie.
Oui, je suis allée me balader dans un festival Smile avec 3 M qui se dit vegan et pop et s'affiche comme une utopie végétale. Vous imaginez bien que ça m'a mis la puce à l'oreille. Direction donc Paris, le parc de la Villette où d'entrée j'ai vite été mise dans l'ambiance en faisant un petit tour des stands.
Nous on fait des cookies à base de farine de pois chiche.
On vend des pâtes de Kojak.
C'est une préparation à base de protéines de blé.
C'est des super soupes. Celle-ci, c'est lentilles vertes, choucal, gingembre.
Des gâteaux apéritifs sains et gourmands à base de pois chiches.
Des bonbons 100% naturels à base de fruits et de super aliments biologiques.
Roots Vegan Food, c'est les saucissons.
Ah, vous faites des saucissons vegan ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Et oui, un classique, Mathieu, le saucisson. Et il y a aussi le fromage avec un V comme vegan encore. Et alors, mon petit coup de cœur, il n'est pas du côté nourriture, mais dans la salle de bain.
Les auriculis, donc c'est des cures aux rails écologiques qui se gardent toute la vie pour remplacer les bâtonnets ouatés. C'est une petite tige en bambou, voilà, avec une petite coupelle au bout, très fine, qui permet de venir enlever le cérumen quand on est excès dans l'oreille.
Et bon appétit, bien sûr. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'écologie tout ça ? Eh bien là, le zéro déchet dans la salle de bain par exemple, pendant que l'alimentation, elle, vise l'impact de l'élevage sur la planète. C'est en tout cas ce que m'a expliqué Nicolas Ders, l'un des organisateurs.
Je pense qu'on peut pas être un ou une bonne écolo si on change pas de manière très forte la place que prend la viande et le poisson dans son alimentation. L'élevage, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre devant les transports. Donc on peut pas être un écolo sérieux si on n'y va pas à fond sur son alimentation végétale.
Ok, alors est-ce qu'on peut être un vegan sérieux sans y aller à fond sur l'écologie ? Vous me suivez ? Parce qu'il y aurait quelques contradictions.
Les vegans sont loin d'être tous écolos.
Vous vous définiriez comme une écolo ou pas ?
Je me définis comme sur le chemin, imparfaitement écolo.
Moi je suis plus écolo que vegan.
Vous êtes vegan ?
Totalement, oui, bien sûr.
Et écolo ?
Comme on peut, quoi, au maximum. Hein, c'est... bien sûr, maintenant... qu'est-ce qu'être écolo ?
Ah bah oui, hein, that is the question, comme on dit. Pas si simple finalement le lien écologie-véganisme. Et alors eux m'ont définitivement perdu.
Et vous, vous êtes vegan tous les deux ?
Du tout. Non, non.
Ah là là, ni vegan, ni écolo. D'autant qu'en me penchant sur certains emballages, j'ai encore déchanté.
C'est du plastique quand même ?
C'est du plastique, mais parce que le verre est très mal recyclé en France.
Nous, on a un problème, c'est qu'on est sur un produit de snacking. Donc vous voyez là, c'est emballé dans du plastique. On a essayé avec des packs en fibre de bois. On a essayé des packagings en coque de pistache recyclée. Mais alors, on a beaucoup de mal.
Alors, nous sommes donc tous vraiment en transition.
Oui, allez, on le dit tout le temps. Ouais.
Voilà, on continue la visite. Il y avait aussi une partie vêtements.
T-shirt coton biologique, certifié PETA, GOTS et Fairwear Foundation.
Oui, alors faut beaucoup parler anglais aussi hein, pour tout comprendre. Ici, c'est ce qu'on appelle la slow fashion, Mathieu, en opposition à la fast fashion des Zara, H&M, etc.
C'est quand même la deuxième industrie la plus polluante de la planète, l'industrie de la mode. Nous, on est un collectif d'acteurs et de designers justement qui agissent en faveur de la mode durable et engagée. Nous, cette mode-là, on appelle la mode libre.
Et du coup, votre maillot, là, il coûte combien ?
Moi, il coûte 195 euros.
Ouf.
Oui, 195 euros, c'est pas donné, mais la créatrice a des arguments.
Ça dépend où on veut mettre l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des téléphones à 1000 euros. Demain, si vous avez envie d'acheter une mode qui respecte l'humain et qui respecte la planète, vous pouvez carrément le faire, il n'y a aucun souci. Il suffit juste de considérer vos valeurs et où vous voulez investir en fait.
Alors moi hier j'ai préféré investir dans du chocolat.
Ça m'étonne pas de vous.
Vegan évidemment, bio aussi, avec un petit bonus.
Une autre particularité c'est que j'importe les fèves de cacao à la voile.
Donc en plus c'est bon pour la planète.
Exactement.
Bon, la prochaine fois vous embarquez Greta Thunberg.
Pardon ?
La prochaine fois, vous embarquez Greta Thunberg ?
Greta Thunberg, je connais pas.
Voilà, vous voyez, quand je vous disais que le lien vegan-écolo était complexe, enfin, son chocolat était quand même super bon.
Bon, bah c'est super. Et en plus, débarquer à la voile, ça c'est formidable. Camille, passe au vert, à réécouter sur franceinter.fr.
Sophie Godin-Beckmann, est-ce que le véganisme peut contribuer, sait-on jamais, à protéger la couche d'ozone ?
Alors,
ou à lui faire
question.
Du mal, à contrario ?
Puisque moins d'élevage,
oui, moins d'élevage,
moins d'émissions de méthane,
voilà,
ça
exactement.
Joue sur la couche d'ozone,
oui,
le méthane
joue sur la couche d'ozone, en fait, puisqu'il entre dans les, il produit de la vapeur d'eau qui rentre dans les cycles de destruction de l'ozone et c'est aussi un gaz à effet de serre.
Ah ben donc on peut dire que le véganisme, alors, joue, protège la couche d'ozone, j'ai réussi à le dire.
Effectivement, ça, c'est, effectivement, c'est un sujet intéressant à creuser.
Eh bien, nous l'avons ouvert ici dans la Terre au carré. Vous restez avec nous, Sophie Godin-Beckmann, des questions pour vous au 01 45 24 7000 et sur le site de la Terre au carré. You get
popping and popping and breaking on my nose. I make a shit up and suck it, she fucking at my show.
I make a shit up, she fucking at my show.
Drip, drip. No shoes in my sneaker won't trip. My jeans ain't so tight they don't fit. Still walk around with a stick on my hip. VVS diamonds right behind my lip. Down wall with less than 50 on my wrist. Diamonds so cold on my neck it got me sick. Rob Simmons mix it up with the Rick. Flexing on these haters, oops I mean my bad. Made it from the soil, made it from the wrecks. Richer than your first, richer than your last. LUV, know I got the swag. Pop a rubber band, pop another Zan. I groove around, party back my hand. I'm seeing double looking through my lens. Tell me what you want, I just want your friend.
You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond key, come. Okay. All you do is point at what you want. Point it up. Crystal cut, punters and chumps. Oh, come on. $35 for a dub. Nigga try to buy the cash cause. Purse Miller brands with the walls. $35 for a dub. You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 not for a burger. You get a purse for free. I make a word for me. Copy and burst for me. Turn to a VIP. I make a word for me.
Bang, oh, no, 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 no,
no, no, no. I make her drop it and pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck and she fucking at my shows. I make her shut up, she fucking, she sucking at my shows. Diamonds, they drip down my wrist. Get it, fuck out the skits. Woo. Left wrist sitting on the brick. Left bitch have it lie like a pig. Fish work, K for the shit. Grab an AK for the wrist. Gorilla rapping, babe for the bitch. Change your car, cave on a bitch. Bitch, we live in state, state on a bitch. We never ever play with a bitch. Do everything the same on a bitch. We know them pick the brains of a bitch. I throw the big B's on a bitch. I got a few C's on a bitch. I'm in another lead on a bitch. My diamond back ski on a bitch.
What's the move? I'm trying to iron you.
Oh, yeah.
I was trying to spine on you.
Yeah.
To the pain mines too.
God.
Make it rain on you.
Rain.
It was hard to maintain too. Ooh, I was playing games with you, like you couldn't play games too.
Hey, okay. You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond key, come.
Okay.
All you do is point at what you want.
Point it out.
Crystal cut, punters and chumps.
Oh, yeah.
$35 for a dub. Nigga try to buy the cash cause. Purse Miller brands with the walls. $35 for a dub.
You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 not for a burger. You get a purse for free. I make a word for me. Copy and burst for me. Turn to a VIP. I make a word for me.
You won't bang, oh no, no.
I make a drop it and pop it and break it on my nose. I make a shut up and suck and she fucking at my show.
I make a shut up, she fucking, she sucking at my show.
C'était Young Thug avec Lil Uzi Vert. C'était What's the Move?
La Terre au carré. Le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Sophie Godin-Beckmann, directrice de recherche au CNRS, notre invitée cet après-midi à l'occasion de cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, puisque vous êtes présidente de la Commission internationale sur l'ozone. Ça consiste en quoi d'ailleurs ce rôle?
Alors c'est une société savante qui regroupe la communauté scientifique qui travaille sur l'ozone.
Vous êtes nombreux sur le sujet?
Oui, on est nombreux, c'est une communauté en général, on organise des symposiums tous les 4 ans et il y a à peu près 200 à 300 personnes qui travaillent sur le sujet et qui se retrouvent pour discuter des derniers résultats.
Et qui scrutent de près évidemment, j'imagine, l'évolution de ce trou dans la couche d'ozone. Les auditeurs sont au standard de France Inter et Serge est là pour une question pour vous, Sophie Godin-Beckmann. Bonjour Serge.
Bonjour Monsieur Vidard, merci pour l'ensemble de vos émissions.
Merci.
Oui, votre invité nous a bien expliqué que la couche d'ozone se situait entre 20 et 40 km dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Comment se fait-il que sur les autoroutes, il y a donc des informations nous indiquant qu'il y a pollution à l'ozone et donc on nous demande de réduire notre vitesse. Voilà, comment se fait-il que à la surface de la Terre, donc sur une hauteur très faible par rapport à la stratosphère, il y ait une pollution à l'ozone puisque ce sont les termes qui sont indiqués sur les pancartes des autoroutes. Voilà, particulièrement dans le sud entre Gap et Marseille. par exemple.
Ah bon, vous l'avez noté. Alors Sophie Godin-Weckmann, pour répondre à Serge, qu'est-ce qu'il faut entendre oui, par ce terme pollution à l'ozone exactement alors?
Oui, alors l'ozone est présent dans toute l'atmosphère. Ce qu'on appelle la couche d'ozone, c'est la région dans laquelle l'ozone est le plus abondant, donc entre 15 et 35 km à peu près. Mais il y a de l'ozone aussi au niveau du sol et puis dans la troposphère aussi.
Et ah oui, donc on baigne dans de l'ozone en fait alors?
Oui, sauf qu'il y a très peu d'ozone en bas. En fait, 90% de l'ozone atmosphérique est dans la stratosphère, au-dessus de 10 km d'altitude. En dessous, il y en a 10%. Et il y a effectivement ces épisodes de pollution à l'ozone qui sont des phénomènes complètement différents de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont liés à des émissions d'oxyde d'azote, d'hydrocarbures et qui, sous l'influence du soleil, peuvent ensuite créer de l'ozone qui est un polluant secondaire.
Donc le fait de lever le pied justement sur l'accélérateur, on libère moins de particules et donc on participe à la préservation. Du coup,
oui, tout à fait, sauf que en fait, ça joue pas beaucoup sur la couche d'ozone en elle-même, c'est un phénomène différent. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a le bon ozone au-dessus de 10 km d'altitude, celui qui nous protège des UV, et il y a le mauvais ozone, celui qui est proche de nous et qui est un puissant oxydant, donc et qui est mauvais pour la santé. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas émettre trop de polluants pour créer de l'ozone.
Et vous venez de répondre à une question que Jean-Paul nous posait par mail justement sur y a-t-il deux ozones? Alors Bernard nous demande, lui, y a-t-il des interactions entre le climat et le trou de la couche d'ozone? J'ai entendu dire qu'il tend à faire baisser la température en Antarctique.
Alors effectivement, en fait, il y a une interaction dans les deux sens. C'est-à-dire que le changement climatique va influer sur le rétablissement de l'ozone. Et de la même façon, l'ozone, la destruction d'ozone a influencé le climat essentiellement dans l'hémisphère sud, puisque la destruction la plus importante, c'est un signal très très fort en termes climatiques, c'est produit essentiellement en Antarctique. Et donc, il y a eu effectivement une influence sur le climat de l'hémisphère sud. On assiste en fait à un décalage vers le sud de la zone de fort vent en altitude. Et il y a eu aussi des effets sur la température en Antarctique. C'est des effets relativement faibles, mais qu'il faut prendre en compte lorsque on évalue l'évolution du climat dans l'hémisphère sud. C'est un acteur important.
Alors, ce qu'il faut dire justement, Sophie Godin-Weckmann, c'est qu'en interdisant aussi les CFC en particulier, on a aussi joué en faveur du climat, hein, en empêchant un réchauffement encore plus important.
Oui, tout à fait. En fait, les CFC sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Et on s'est rendu compte dans les années 2010 que finalement, le protocole de Montréal avait mieux protégé le climat que le protocole de Kyoto.
Oui. Il avait, Alors que ce n'était pas prévu par le protocole de Montréal. Hein.
Non, ce n'était pas prévu c'est du ça, tout. C'est... En fait, ça a été presque une surprise, disons. Enfin, on savait que c'était des gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on a fait le calcul, on s'est rendu compte que le protocole de Montréal avait été 5 fois plus efficace que le protocole de Kyoto pour protéger le climat. Ouais.
Donc ça a empêché un relargage de gaz assez important. Chaque année, je crois qu'il y a un calcul qui a été fait montrant que c'est des gigatonnes de gaz en moins.
Oui, enfin, c'est-à-dire que le fait d'empêcher l'émission de ces gaz, de ces CFC, ça a permis d'empêcher leur influence sur le climat. Par contre, il y a un autre sujet qui est que les substituts des CFC, qui sont les HCFC, la deuxième gamme de substituts, sont eux aussi de puissants gaz à effet de serre.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'en 2016, on a signé l'amendement de Kigali au protocole pour promouvoir l'utilisation de HFC qui soit moins puissant en termes de gaz à effet de serre.
Oui, parce que tant qu'à trouver des alternatives, autant qu'elles soient bonnes à la fois pour la couche d'ozone, mais aussi pour le climat, ce qui n'était pas le cas avec les premiers substituts. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc
oui.
Ça veut dire qu'on a trouvé des produits à peu près OK là, sur
oui,
les
alors,
deux fronts.
Oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, mais effectivement, là, on propose, alors là, maintenant, on est en plein discussion là-dessus, et il y a des lois qui sont finalement appliquées dans les États, pour essayer de promouvoir ces gaz qui ont un pouvoir réchauffant global moins élevé.
On a une question d'Adeline sur l'application franceinter.fr. À quoi ça sert une journée comme aujourd'hui, la journée internationale de la préservation de la couche d'ozone?
Ça sert à rappeler au monde qu'il y a eu un protocole qui a été signé il y a plus de 30 ans et qui a eu un effet très important sur l'environnement, qui a sauvé l'humanité en quelque sorte, parce que sinon on se serait retrouvé avec des quantités d'UV qui auraient été très importantes et donc à remobiliser les acteurs autour de ces questions. C'est important de garder cette histoire pour montrer qu'on est capable de se mobiliser pour sauver les gens d'un problème environnemental.
Comme quoi c'est pas terminé. année, hein, qu'il faut rester très attentif à cette couche d'ozone. Sophie Godin-Meckmann, il y a une question intéressante de Marilyn sur franceinter.fr. Elle demande pourquoi le trou se forme-t-il au-dessus du pôle sud alors que les CFC étaient massivement émis depuis l'hémisphère nord? Bonne question.
Oui, question très intéressante et que les gens se sont posés à l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était justement grâce à ces campagnes que c'était lié aux conditions très spécifiques de l'Antarctique en hiver. Dans la stratosphère, il fait très très froid parce que les masses d'air sont isolées. Et donc elles se refroidissent fortement, elles atteignent moins 90 degrés Celsius. Et là, il y a des nuages qui se forment. C'est la seule région où des nuages se forment dans la stratosphère.
Ah oui ?
Et à la surface de ces nuages, des réactions qui sont des réactions en chimie hétérogène vont finalement activer les composés chlorés et les rendre encore plus efficaces pour la destruction de l'ozone. Et donc après, dès que le soleil revient à l'horizon, en fait, l'ozone est détruit au rythme de plusieurs pourcents par jour et il disparaît complètement entre 14 et 20 km d'altitude.
Donc c'est très fluctuant, hein. Il y a vraiment une variation, selon l'altitude aussi?
Oui, selon l'altitude, hein, mais il se trouve que le trou d'ozone, il se forme tous les ans en septembre-octobre, et après il disparaît parce que cette masse d'air, le vortex polaire, elle se réchauffe et elle se dilue dans l'hémisphère sud. Et après, en automne, il y a reformation de ce vortex, refroidissement, etc. Donc les conditions sont toujours réunies, et il y a encore toujours suffisamment de chlore et de brome pour détruire l'ozone dans cette région.
Camille. Question de Jean-Paul. Les frigos sont-ils soumis aujourd'hui à une réglementation efficace ?
Oui, alors l'Europe en particulier suit une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation F-Gaz, qui a pour objectif de remplacer les gaz dans les frigos avec les gaz qui suivent l'amendement de Kigali. Bon, après, il se trouve qu'il faut, comme toujours, vérifier que tout ça s'est bien appliqué par tout le monde, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de contrevenants. Et effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par des ONG qui montraient qu'il pouvait y avoir des fraudes et qu'il fallait des dispositifs de surveillance beaucoup plus importants aux frontières pour s'assurer qu'on n'importait pas des gaz illégaux en Europe.
Une question de Gérard sur franceinter.fr. Quelle est la durée de vie des CFC, donc qui sont interdits aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer un jour que le trou soit totalement résorbé?
Alors la durée de vie est de l'ordre de 60 ans environ. Donc effectivement, tous les scénarios montrent que si on suit l'application du protocole de Montréal, normalement le trou devrait être résorbé dans les années 2060. On suit, et donc les récentes menaces qu'on a découvertes sur les CFC-11, etc., ont montré qu'on pouvait retarder en fait la disparition du trou d'ozone de 10 à 15 ans.
Élise nous demande, il y a des études qui pointent des émissions de gaz provenant de l'industrie chinoise. Le protocole de Montréal dispose-t-il de moyens pour contraindre la Chine à intervenir?
Ça, c'est un des problèmes, justement, sur le fait de résorber complètement le...
C'est le problème des protocoles environnementaux. Si on veut avoir beaucoup de pays autour de la table, on peut pas commencer à parler de sanctions. Sinon, personne ne va signer. Donc, le but, c'était d'avoir, à l'époque, ce dispositif un peu gagnant-gagnant, où les pays en voie de développement recevaient de l'argent et disposer de transferts de technologie. Bon, et par contre, il n'y a aucune clause indiquant des sanctions si on contrevenait. Donc c'est la première fois qu'on se rend compte qu'il y a une contravention, des pays n'appliquent pas ce protocole de Montréal. Et donc là, il y a des discussions, et c'est là où le
Qu'est-ce
protocole de Montréal...
Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Chinois, quand ils ont été pris
la
main dans le sac?
En fait, il est efficace parce que c'est aussi un lieu de discussion. Donc on les a confrontés à ces résultats, et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait sans doute des acteurs privés chez eux qui n'appliquaient pas ou qui n'avaient pas compris forcément le message, ou le message n'était pas passé. Enfin, toujours est-il qu'ils se sont engagés à faire appliquer le protocole de Montréal. Donc on est dans cette situation actuelle.
C'est encore de la diplomatie finalement.
Voilà, c'est complètement c'est complètement diplomatique.
Merci beaucoup Sophie Godin-Beckmann d'être venue nous voir aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Merci à vous.
À l'occasion donc de cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Juste après les infos, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Stéphane, un auditeur que nous allons retrouver à La Réunion. Il a mis là-bas en place un programme de protection des tortues. Ce sera juste dans quelques instants.
La Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, une nouvelle série de reportages avec cette semaine Julie Pietri qui va nous faire partager le quotidien d'une famille zéro déchet. Et puis enfin notre invité découverte est le journaliste Fabrice Nicolino qui publie Le crime est presque parfait, une enquête choc sur les pesticides qui sort aux éditions Les liens qui libèrent. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète, ça vous dirait un petit voyage à La Réunion, Camille?
Comme ça, express, allez, téléportation. Ouais,
sans bilan carbone non. Catastrophique, grâce au téléphone et Stéphane qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Bienvenue, vous êtes donc en ligne depuis La Réunion et vous êtes le directeur de Kélonia. C'est un observatoire de tortues marines de l'île de La Réunion, sur l'île de La Réunion. Ça veut dire quelque chose de particulier, Kélonia, j'imagine, non?
Oui, c'est en fait le nom de genre de la tortue verte en latin.
Alors, quelles sont les missions exactement de votre observatoire autour de ces tortues que vous souhaitez évidemment protéger le plus possible?
Alors, Kélonia a deux missions principales. Une première mission qui est une mission de sensibilisation où on essaye de sensibiliser le public le plus large possible à la préservation des tortues et à celle de leurs habitats. Et puis, des actions d'études et de conservation. On a un centre de soins qui est un agrément du ministère de l'Environnement qui nous permet de recueillir les tortues blessées et malades récupérées autour de La Réunion, de les soigner pour les remettre dans le milieu naturel et ce qui nous permet aussi d'avoir des informations quant aux menaces qui pèsent sur ces espèces. Mmh.
Est-ce que c'est un animal symbole, la tortue, pour les habitants de l'île de La Réunion?
À La Réunion, très clairement, hein, c'est La Réunion a été appelée pendant un temps l'île de la tortue et du fait de sa forme. Et aussi parce que c'était ce qu'on appelait les îles à tortues à l'époque de la marine à voile, c'est-à-dire que c'était des îles non habitées, où les tortues étaient parmi les espèces animales les plus abondantes. Elles s'étaient développées sur ces îles en absence de prédateurs, donc il y avait énormément de tortues de mer et énormément aussi de tortues de terre.
Stéphane, vous avez parlé des menaces qui pèsent sur les tortues, c'est quoi les menaces aujourd'hui?
Alors les menaces qui actuellement à La Réunion, c'est la principale menace, c'est la pêche accidentelle en fait. Hein. Il y a des activités de pêche autour de La Réunion avec des milliers et des milliers d'hameçons qui sont déposés en mer et les tortues carnivores, alors qui vont de temps en temps aller mordre sur ces appâts et qui peuvent être attrapés par les hameçons. Donc on a un programme avec les pêcheurs qui a été fait d'ailleurs à l'origine. À leur initiative pour essayer de réduire l'impact de ces activités de pêche sur les tortues marines.
Ça veut dire qu'on les forme à retirer l'hameçon concrètement, Stéphane?
Alors on les a formés à retirer les hameçons à bord pour qu'ils puissent libérer les tortues quand ils peuvent le faire. Et quand ils ne peuvent pas le faire, à ce moment-là, ils déclarent leur capture à l'administration puisqu'ils n'ont pas le droit normalement d'avoir des espèces protégées à bord. L'administration nous prévient, nous on va récupérer la tortue sur les quais et on l'opère pour lui retirer l'hameçon. Et ensuite, lorsque la tortue est guérie et qu'elle recommence à se nourrir, on les relâche en mer et on en profite pour les faire parrainer par des écoles, ce qui permet d'associer sensibilisation et conservation.
Donc ça c'est le problème de la pêche hein, finalement avec les hameçons. Il y a d'autres soucis j'imagine?
Alors il y a d'autres soucis, notamment un souci qui est de plus en plus grave, c'est les déchets plastiques. Et on s'aperçoit sur les tortues qu'on reçoit au centre de soins de Kélonia, que pratiquement maintenant toutes les tortues ont ingéré des déchets plastiques. On a commencé à observer ces ingestions de plastique en 2007 où ça concernait 30% des tortues. L'année dernière, ça concernait plus de 95% des tortues. Voilà. Et la quantité moyenne de plastique ingérée par les tortues a été multipliée par 3.
En 10 ans quoi quasiment, hein, c'est ça?
En 10 ans, voilà. Donc on est vraiment sur un phénomène exponentiel qui a un impact de plus en plus important. Alors les tortues marines, ça n'est qu'un exemple des espèces animales qui sont impactées par ces déchets plastiques qui sont présents partout dans l'océan.
Donc le travail de l'association, c'est de faire d'informer les gens pour sensibiliser à tous ces soucis. Comment les habitants de La Réunion peuvent vous aider concrètement justement dans votre action, Stéphane?
Alors, on a des programmes de sciences participatives où on fait appel au public justement pour qu'il nous aide à récupérer des données sur les tortues marines, notamment en faisant de la photo-identification des tortues qu'ils peuvent croiser lorsqu'ils font de l'apnée ou lorsqu'ils font de la plongée autour de La Réunion, avec un programme de photo-identification qui utilise le profil de la tête qu'on a développé sur Kélonia. Et puis, on fait appel au public aussi pour des actions de conservation, pour surveiller les quelques tortues qui viennent encore pondre à La Réunion. Donc on a besoin de personnel sur la plage pour vérifier que les tortues ne sont pas dérangées et que les nids ne vont pas être menacées. Donc on a des bénévoles comme ça qui viennent. Et puis des bénévoles qui viennent aussi pour restaurer les plages de ponte en recréant la végétation littorale originelle sur ces plages, puisqu'on sait que cette végétation va jouer un rôle important dans la reconnaissance des plages favorables à la ponte par les femelles lorsqu'elles sont en saison de reproduction.
Donc c'est très important de prendre soin des plages aussi pour préserver les sites de ponte, hein, j'imagine.
Ben exactement, les plages, ça fait partie des habitats prioritaires pour les tortues, puisque c'est là qu'elles viennent se reproduire. Alors c'est vrai que quand on voit les plages, souvent c'est un espace de loisirs et de liberté, donc il faut aussi avoir à l'esprit que c'est des habitats très très importants pour certaines espèces, dont les tortues. Et donc en contrepartie, ben il faut accepter de temps en temps qu'il y ait quelques contraintes et quelques limites aux activités nuisibles sur ces plages pour permettre aux tortues de continuer à venir s'y reproduire.
Et vous cherchez des bénévoles, hein, Stéphane ?
Voilà, on fait appel à des bénévoles, effectivement, pour surveiller ces plages. D'abord pour savoir quand les tortues viennent pondre, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut augmenter la surveillance. Et puis ensuite, quand elles sont là, ben, pour s'assurer qu'elles pourront monter, pondre leur nid, sans être dérangées, et qu'ensuite les nids ne seront pas menacés jusqu'à la naissance des bébés tortues.
Ben moi, j'aimerais bien venir vous rejoindre, vous voyez. On est un petit peu loin, mais franchement, ça me plairait beaucoup. On peut avoir tous les renseignements. On peut aller sur le site de Kélonia, hein. C'est museereunion.re/Kélonia, mais tout ça, évidemment, Chantal Le Montagnier l'a mis en lien sur le site de la Terre au Carré.
Il a météo, ça va, justement, si on a envie de vous rejoindre par téléportation, bien évidemment, Stéphane. L'hiver austral se passe bien.
En ce moment, on a des conditions météo extraordinaires. La mer est calme, le temps est tempéré, pas trop chaud, pas trop frais. Donc, c'est la meilleure période pour venir à la Réunion.
Bon, Vénard, merci beaucoup Stéphane, en tout cas, pour votre appel. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent également nous faire part d'initiatives, eh bien, vous pouvez nous joindre, comme tous les jours, sur la page de la Terre au Carré, franceinter.fr. Julie Pietri est avec nous toute cette semaine. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour. Premier épisode donc aujourd'hui de votre immersion dans une famille zéro déchet. Et on va le voir Julie, les débuts ont parfois été chaotiques entre engueulades, étonnement et critiques des proches.
Alors c'est une famille d'ici les Moulineaux près de Paris qui a accepté de nous recevoir. Un couple, Céline et Grégory, la quarantaine, plutôt aisée, parents de 3 enfants et des poubelles donc en voie de disparition. Le déclic est assez récent. Un soir de 2015, en pleine COP21 à Paris, Céline, la maman, assiste à une conférence de cette femme-là, Bea Johnson, sorte de papesse du zéro déchet, qui parle donc là de sa propre expérience.
On s'est rendu compte que pour que le zéro déchet soit vraiment visible chez nous à long terme, il suffisait tout simplement de suivre 5 règles dans l'ordre. De refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et enfin de composter pour qu'à la fin de l'année, on ne se retrouve donc qu'avec un bocal de déchets. Merci, merci.
Donc vous ne le voyez pas là, mais il est vraiment, vraiment très, très petit ce bocal. L'idée, c'est de ne plus acheter de produits emballés, de refuser les sacs plastiques, d'emmener des tupperwares chez son commerçant, etc. Alors Bea Johnson dit tout simplement, on va voir ce qu'il en est. Céline et Grégory reviennent d'abord sur cette soirée et sur leur premier pas.
Hop, allez-vous dans le salon. Julia, tu montes aussi, comme ça on est tranquille. La table est débarrassée.
Bah pratiquement, mais vas-y.
Vous vous souvenez dans quel état vous êtes rentrée chez vous De quoi vous avez parlé à votre mari ce soir-là?
Ben oui, j'étais hyper enthousiaste. Donc on a envie de tout changer. Bon, l'enthousiasme a été moins partagé.
Moi, je savais même pas qui c'était Bea Johnson. Je me suis dit encore, elle a été un truc du luberlu, bobo écolo.
Donc ça crée des tensions et entre nous, au début notamment, quand il partait faire les courses chez le boucher, par exemple, chez le fromager, et que je voyais qu'il préparait juste un cabas et pas de boîte en plastique.
Donc des boîtes pour que les commerçants mettent le fromage directement dans votre boîte et pas de sachet en plastique.
Au début, c'est vrai que je le faisais pas. Céline allant très vite sur les sujets, voulant imposer un peu une sorte de diktat à la maison sur ce sujet. Moi, je dis non, on va y aller tranquillement, donc me force pas. Elle m'a un peu forcé à utiliser les boîtes. Donc quand vous faites les choses forcées, je me souviens d'une anecdote, c'était chez le fromager.
Je suis parti fâché avec les boîtes,
j'étais chez le fromager, j'ai mis chaque fromage dans une boîte, puis j'avais acheté de la mozzarella qui m'a mis dans une boîte, et puis du coup la boîte s'est ouverte, et du coup je me suis retrouvé avec, ou de la crème fraîche, ouais, du coup je me suis retrouvé avec un sac rempli de boîtes et de la crème fraîche partout. Donc là je l'ai haï profondément.
Je me suis fait incendier en revenant. Et là, après, on a quand même eu à un moment donné l'occasion d'en discuter. Je pense que c'est important. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien que ce soit un projet commun et que ce soit des valeurs communes qu'on transmette à nos enfants et que c'est pas juste une lubie de ma part. C'est une vraie démarche et qui complique pas la vie en plus.
Cinquième étage.
Bonjour.
Très bien.
Claude, vous êtes donc le père de Céline.
Oui. Bon, voilà. Une fois, il m'est arrivé d'aller au marché dans un magasin bio. Ils m'énervent, ces gens-là. les gens ont l'air inspirés, ça m'énerve un peu. Mais elle le sait. Tout le monde ne participe pas à ça, voilà. Et Céline me dit, mais toi tu t'en moques. Je dis, elle a raison, mais oui. Bah, parce qu'il me reste 10 ans à vivre.
Vous avez quel âge, Claude ?
73 ans. Je connaîtrai pas les catastrophes annoncées. Bon.
Qu'est-ce que vous lui dites à votre fille ?
Ah ben, de continuer. Moi-même, depuis plus de 10 ans, j'ai un lombricomposteur dans la cave. Mais nous avons un petit point d'opposition. Je suis contre, absolument contre la théorie du colibri, dont vous avez certainement entendu parler de, comment il s'appelle, Pierre Rabhi, c'est ça ? Devant un incendie de forêt, tous les animaux fuient, évidemment. Mais le colibri, qui est un tout petit oiseau, ne fuit pas, va chercher un peu d'eau dans la rivière pas loin, et va éteindre ce qu'il peut avec l'eau qu'il a récupérée. C'est ça la théorie du colibri. Il fait ce qu'il peut. Cette théorie du colibri, je la trouve débile. Vous voyez l'Amazonie, le colibri, il est, avant de revenir, il a déjà cramé, il est déjà mort. Je suis quand même un peu pessimiste quant à, à l'efficacité de tout ça.
Est-ce que ça vaut le coup alors ?
Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, qui est-ce qui a dit ça ? Je ne sais plus. Je fais ce qu'il faut faire. Point. C'est déjà pas mal.
Voilà, merci. Bon courage, au revoir.
Voilà, entre début balbutiant et réflexion dubitative des proches, ce n'était pas forcément gagné, mais ils ont continué, Grégory et Céline, et ça fait bientôt 4 ans que ça dure.
Et on va les suivre toute la semaine avec vous, Julie Pietri. Demain, les travaux pratiques avec les courses en mode zéro déchet. Merci beaucoup, à demain Julie.
À demain.
Dans un instant, notre invité découverte, c'est le journaliste Fabrice Nicolino pour un livre « Le crime est presque parfait », une enquête sur des pesticides que vous ne connaissez pas encore, et pourtant... Amour, armure, c'était Clément Froissart.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes journaliste, vous êtes à l'origine de ce mouvement Nous voulons des coquelicots et vous publiez aux éditions Les Liens qui libèrent Le crime est presque parfait, sous-titré L'enquête choc sur les pesticides et les SDHI. Au cœur de cette enquête, donc une classe de pesticides, de fongicides d'ailleurs très exactement, utilisés dans l'agriculture pour combattre les champignons et les moisissures. Les SDHI qui étaient encore, il y a très peu de temps, à peu près inconnus de tout le monde, et vous y compris d'ailleurs. Hein.
Ah oui, absolument.
Alors vous travaillez sur le dossier des pesticides depuis des années et des années.
J'ose à peine vous le dire, mais ça fait bien 20 ans.
Ouais, et vous n'aviez jamais entendu parler de ces pesticides?
Non, absolument jamais. J'ai découvert ça dans une tribune publique le 15 avril 2018, vous voyez. Ouais. Ça fait un an et demi.
Dans Libération.
Ouais, exactement. Mais je ne connaissais pas.
Enfin, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Pourtant, il y en a partout. C'est-à-dire, ouais. C'est le premier problème. C'est que c'est pas une expérience, les SDHI. C'est-à-dire, vous trouvez des SDHI sur 80% des surfaces de blé, probablement autant dans des surfaces d'orge, les pommes de terre, les tomates, les semences, les arbres fruitiers, la vigne, les terrains de sport, etc., etc. En vérité, il y en a partout.
Donc, ça veut dire quoi, SDHI?
Alors, SDHI, ça veut dire succinate déshydrogénase inhibiteur.
C'est pour ça qu'on ne préfère pas le dire, en fait, Camille. Mais...
bon, SDH, pour comprendre
SDH,
à peu près.
Bien sûr, je vous explique en deux mots, c'est assez simple, en fait. SDH, c'est la fonction respiratoire. Cette fonction respiratoire, elle existe chez tous les êtres vivants, depuis le plus petit vermisseau jusqu'à la baleine bleue. Et nous compris, bien sûr. Donc, il y a une SDH, une fonction respiratoire chez tous les êtres vivants. Les SDHI, ils inhibent, c'est-à-dire ils s'attaquent à cette fonction respiratoire chez les champignons pathogènes.
Donc à cette enzyme, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Ouais. Et donc ils tuent les champignons, ce qui est leur rôle. Donc jusque-là, tout le monde peut applaudir, pas moi d'ailleurs, parce que j'aime pas trop les pesticides, mais on peut considérer que la mission est accomplie. Seulement, surgit dans ce tableau un scientifique de réputation vraiment mondiale, un homme, bon, je parle ici à l'ancienne tête au carré, et je peux dire que
Pierre Rustin,
c'est un homme quand même assez spécial. Il a 307 publications scientifiques à son actif, 27 000 citations dans les littératures scientifiques, donc c'est vraiment un scientifique de premier plan.
Il est spécialiste de quoi d'ailleurs?
Les maladies mitochondriales. Alors, c'est toute l'affaire. Rustin, en octobre 2017, il constate l'existence de SDHI après des études bibliographiques. Il est en train de chercher ce qu'on raconte sur les maladies mitochondriales dans la littérature scientifique, sur le net, et il tombe sur l'existence des SDHI. Alors là, il tombe de sa chaise, vraiment, il l'a raconté comme ça, il tombe de sa chaise, car il se dit, mais les SDHI s'attaquent donc à la fonction respiratoire, cette fameuse SDH des champignons. Seulement, est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce que les SDHI s'attaquent également à la fonction respiratoire d'autres êtres vivants? Il va pouvoir prouver in vitro, en laboratoire, qu'en effet, les SDHI s'attaquent non seulement à la fonction respiratoire des champignons, mais également à la fonction respiratoire des vers de terre, des abeilles, qui ont déjà tant souffert avec les néonicotinoïdes, et à la fonction respiratoire des humains.
Et comment il arrive à le montrer, ça, finalement, alors?
Par des expériences in vitro, il fait de la tambouille, j'imagine, je n'étais pas là, mais de la tambouille, il met au contact de cellules de vers de terre et de cellules humaines, des SDHI, et en effet, il constate le même phénomène. Donc, pour lui, le danger, il est immense. C'est ça le point de départ. Il faut comprendre que là, il y a une autorité scientifique à peu près indiscutable. On peut le critiquer, bien sûr, mais c'est tout de même une autorité scientifique mondiale. Et il dit, halte là, les SDHI s'attaquent aussi aux cellules humaines. Et donc, le danger est immense de voir apparaître chez les humains des maladies très graves, des maladies neurologiques pratiquement incurables et des cancers.
Donc Fabrice Nicolino, ce que fait justement ce chercheur, Pierre Rustin, c'est de contacter l'ANSES quand même, qui est l'agence de protection sanitaire.
Et ouais, c'est le sujet principal
avant
du livre.
Avant de faire sa tribune dans Libération.
Bien sûr, c'est le sujet principal du livre. D'abord, mystère total. Il décroche son téléphone, il appelle l'ANSES. L'ANSES, je le rappelle, c'est l'agence de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement, du travail. C'est l'agence publique.
Que nous finançons donc.
Que nous finançons publique et qui est chargée de notre protection tous azimuts. Donc que fait Rustin? C'est un scientifique tout à fait à la hauteur de ce que doit être un scientifique. Il décroche son téléphone, il appelle l'ANSES, et là l'ANSES se tait. Pendant 6 mois, silence total. Rustin a fait son alerte, il a donné des renseignements de nature scientifique, l'ANSES se tait pendant 6 mois. À la suite de quoi, Rustin et 8 autres scientifiques, très réputés, des toxicologues de l'INRA, des cancérologues des hôpitaux parisiens, il en a marre. Disons-le franchement, il en a marre. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Et donc, il décide de faire une tribune publique, celle dont vous parliez sur Libération le 15 avril 2018. Et à ce moment-là, l'ANSES est un petit peu coincée, si vous me permettez, puisqu'elle ne peut plus rester dans le silence. Et elle accepte que les neuf scientifiques avec Rustin viennent au siège de l'ANSES à Maison Alfort le 14 juin 2018, c'est-à-dire 8 mois après la première alerte. C'est-à-dire 8 mois, c'est long. Oui. Quand on vous alerte d'un danger pareil, 8 mois d'inaction, c'est très long. Et là, on n'est plus dans le mystère, on est dans le scandale pur, puisque ces 8 scientifiques, un 9e n'a pas pu venir. Ces 8 scientifiques se retrouvent au siège de l'ANSES, avec leur savoir scientifique à peu près indiscutable, en tout cas dans ce domaine. Et au lieu d'être reçus comme on doit recevoir des gens qui viennent vous alerter sur un sujet sérieux, ils sont reçus extrêmement mal, ils sont maltraités, vraiment maltraités par la direction de l'ANSES, et au point que 2 scientifiques parmi les 8 présents m'ont dit à moi, et je l'ai écrit dans le livre, elles m'ont dit que ça avait été la pire journée professionnelle de leur vie. Ce qui est inouï. Ils ont eu droit à des ricanements.
Ouais, on leur a tapé sur les doigts, quoi, finalement.
Oui, non, ils ont eu droit à des ricanements, c'est pas sérieux, de quoi parlez-vous, etc., etc. Ils ont été humiliés.
Voilà. Donc, l'ANSES n'a pas donné d'interdiction à la suite. Comment? L'ANSES n'a pas donné d'interdiction.
C'est toute la suite de l'histoire, si vous voulez. Donc, il les reçoit comme des chiens dans un jeu de quilles, épouvantablement. Les scientifiques sortent de là rincés, c'est leur expression, ils sortent de là rincés. L'ANSES réunit un petit groupe d'experts, 4 experts, qu'on appelle GQ, c'est groupe d'expertise collective d'urgence, 4 experts. Ce qui pose problème, puisque 3 d'entre eux ne savent absolument rien du champ concerné. Rustin demande à faire partie du groupe d'experts, s'y refuser. Ces 4 experts se réunissent, rendent un rapport le 15 janvier 2019 qui dit grosso modo, il y a aucun problème, on peut continuer avec les SDHI.
Donc pas de principe de précaution, on continue
comme
la
avant.
Mise en vente.
Les informations scientifiques essentielles apportées par Rustin et ses collègues ne sont pas prises en compte. Et puis 15 jours plus tard, Rustin et ses collègues font une réponse diplomatique, certes, mais extrêmement dure sur le fond, pour dire qu'on s'est moqué d'eux et qu'on n'a pas écouté leur alerte. Et on en est là, on est en septembre 2019. Des SDHI sont épandus partout en France et figurez-vous que le marché mondial est en train d'exploser sous nos yeux. On va assister à un quadruplement du chiffre d'affaires des SDHI d'ici 2021.
Le professeur Lasfargue, directeur général délégué du pôle science pour l'expertise de l'ANSES, dans une interview au Point, affirme que les agriculteurs français utilisent chaque année un petit tonnage justement de ces pesticides, 600 tonnes en moyenne pour les 68 000 tonnes de pesticides à peu près utilisées tous les ans. Donc ces quantités négligeables.
Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il se trouve que Monsieur Lasfargue, je l'ai sollicité à de nombreuses reprises. Il doit considérer que je suis quelqu'un.
De toute façon, l'ANSES, on vous reçoit pas, Nicolino,
une sorte de voyou. Oui, ouais. Ils doivent considérer que je suis un voyou. Je suis quand même journaliste professionnel. Je demandais simplement à être reçu et à interroger l'ANSES et Monsieur Lasfargue sur le sujet. Non. Silence total, ils ont refusé même d'accuser réception de messages, qui est quand même un peu cavalier, c'est le moins que je puisse dire. Non, Monsieur Lasfargue, à mon avis, c'est une plaisanterie, si vous voulez. Où il y a un problème? Et on l'évoque, on en parle, où il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tonnage? C'est totalement ridicule, ça n'a aucun sens. Et en plus, si vous voulez, je vous l'annonce, parce que c'est sûr, les SDHI deviennent un enjeu commercial international très important avec la perspective d'un quadruplement du chiffre d'affaires.
Fabrice Nicolino, le problème pour vous qui est au cœur vraiment de cet ouvrage, c'est finalement la façon dont fonctionne l'ANSES, qui délivre à la fois les autorisations de mise sur le marché et les interdictions de produits qu'elle a elle-même autorisées. Et vous dites clairement, pour moi, l'ANSES, c'est aux mains des lobbies, point barre.
Absolument, mais bien sûr, il faut oser poser des questions démocratiques, c'est pas très compliqué. Je sais pas tordu. Mon histoire, elle est pas l'histoire est tordue, mais moi, je ne suis pas tordu dans cette histoire. Je dis, est-ce que dans un pays démocratique, majeur et vacciné, on a le droit ou pas de ne pas être empoisonné? C'est ça l'affaire. Il se trouve qu'on est empoisonné. Il se trouve que l'agence de protection préfère les intérêts industriels à ceux de la santé publique. Eh bien, je dis, discutons-en. Essayons de voir ensemble, société démocratique, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil. Moi, je dis que vraiment, ça ne peut, à mon sens, ça ne peut pas durer.
Mais il y a des liens très clairs de l'industrie avec l'ANSES.
Bien sûr.
Vous les avez établis très clairement.
Mais je vais vous prendre un exemple tout à fait bête, si vous voulez. L'ANSES donne depuis de longues années écrit des notes communes, c'est-à-dire engage sa signature, qui est comme une signature publique, avec l'INRA et un institut technique de l'agriculture industriel qui s'appelle Arvalis, donne des conseils d'utilisation des SDHI. Vous comprenez bien qu'un institut qui s'est engagé à ce point dans la diffusion des SDHI ne peut pas maintenant venir nous dire il y avait un problème, mais finalement, donc c'est une sorte de fuite en avant.
Ouais.
Et moi, je dis, la démocratie doit avoir le dernier mot et il faut que l'ANSES cesse ce copinage absolument indigne, selon moi, avec l'industrie des pesticides.
Et répondre évidemment aux questions qu'on lui pose autour de ces pesticides que personne ne connaissait. Il y a encore quelques minutes pour la plupart d'entre nous.
Je vous ferai ce que vous voudrez, mais invitez donc Monsieur Roger Jeannet ou Monsieur Lasfar qui viennent parler réellement des questions posées qui sont concrètes. Elles sont concrètes.
Merci Fabrice Nicolino. Ça s'appelle Le crime est presque parfait. Une enquête donc sur ces pesticides SDHI et c'est au Lien qui libère. Merci d'être venu dans la Terre au carré aujourd'hui. Merci également à Denis Delbecq qui était à la rédaction en chef de cette émission.